C'est pour quel...
Je suis avec Élie Gras, bonjour.
Bonjour.
Sur une magnifique terrasse près de la Croisette, au Festival de Cannes. Élie Gras, vous êtes présent à Cannes parce que votre film, Olga, est présenté à la Semaine de la Critique. Alors, bienvenue à Cannes.
Merci.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce film, s'il vous plaît?
Alors, oui. Après mes études, en 2015, j'ai co-réalisé un documentaire dans l'univers des conservatoires que je connais bien. Et à ce moment-là, une des protagonistes que je filme est une violoniste ukrainienne qui est arrivée en Suisse juste avant le début de d'Euromaïdan. Et le trouble avec lequel elle me raconte en fait la révolution, le fait d'être imprégnée jusque dans sa pratique du violon par les images des violences, à ce moment-là, cette histoire me touche profondément. Et aussi me semble pouvoir être entendu de tous. Et c'est ici qu'en fait je trouve le point de jonction entre les différents motifs qui m'intéressent pour ce premier film que je voulais faire. C'est-à-dire filmer la passion d'une adolescente, le corps en action, mais aussi mettre face à face cet enjeu individuel avec d'un coup des enjeux collectifs. Et explorer comme ça avec les outils du cinéma le lien possible entre frontières géographiques, frontières intimes, et donc faire un film sur l'exil en fait, avec un personnage qui se sent pas à sa place, qui est tiraillé entre plusieurs fidélités et qui est confronté à une situation politique, géopolitique qui la dépasse en fait complètement. Voilà, j'ai essayé de me poser la question de comment mon personnage, mon héroïne, l'héroïne du film, allait concilier son désir intime avec le cours de l'histoire.
Alors justement, votre protagoniste, Olga, est gymnaste. Là, vous mentionnez que votre inspiration vient d'une violoniste.
Oui.
Donc, comment s'est fait le pas, justement, vers une gymnaste, qui est d'ailleurs époustouflante. Quand on voit les scènes, c'est très impressionnant.
La gymnastique, c'est la continuité de mon travail sur les conservatoires et sur la danse classique aussi.
Et le théâtre que vous avez aussi
pratiqué, mais de façon moins intense qu'au conservatoire, que la musique classique. Mais voilà, c'est la continuité de mon travail sur ces conservatoires, c'est-à-dire sur l'effort que peuvent s'imposer à eux-mêmes de très jeunes gens au nom de leur passion. C'est un sport à la fois individuel et collectif, ce qui était intéressant par rapport au drame d'Olga. Et puis, le film il travaille quand même l'impuissance d'Olga face à ce qui se passe chez elle. Ce qui était intéressant par rapport à pour une gymnaste qui a passé sa vie à vouloir être surpuissante. Et puis en fait, c'est pas rien non plus des corps de gens de cet âge-là autant marqués par leur pratique.
Adolescente, elle a 15 ans.
D'autant plus des corps d'adolescentes, des corps féminins puissants. En construction et en même temps forts. J'ai l'impression que c'est des corps qui sont encore peu représentés en fait au cinéma. Et puis la gymnastique, c'est plein de mouvements, de sons. En fait, ça m'a donné tout de suite envie de filmer. C'est très cinégénique. Voilà. Après, ce qui m'intéresse, c'est drôle, c'est moins la gymnastique en elle-même, pour elle-même, que la pratique, que l'exercice de la gym. Par exemple, les interstices des figures, les moments de avant d'y aller, le souffle avant d'y aller, les regards après une chute.
Les relations avec l'entraîneur aussi.
Les relations avec l'entraîneur, avec les coéquipières.
Où il y a beaucoup de tension.
Il y a de la tension. Il y a beaucoup de l'attention des unes pour les autres aussi.
Une rivalité quand même.
Des rivalités, mais pas que. Et je trouve que c'est là qu'on perçoit en fait toute l'humanité, enfin toute la vulnérabilité de ces gens qui veulent être très puissants. Et donc je trouve que c'est là qu'on les voit que toute leur humanité a vu, et c'est là que ça me touche le plus en fait. Ouais.
Je ne veux pas tout déflorer du film, mais dans le cas, un petit peu quand même, pour ma question, on voit aussi qu'il y a des rivalités au niveau de la famille suisse qui l'accueille. On comprend que la mère ukrainienne, bon, en plus c'est une journaliste d'investigation politique, et du côté suisse, le grand-père a beaucoup de reproches, et elle se retrouve un peu parachutée là, sans avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, la famille suisse ne l'accueille pas. C'est une famille d'accueil au centre, qui, puisqu'elle est au centre, elle est là-bas. Et cette famille suisse a un statut aussi abstrait que ce qu'elle fait là, en fait. Elle est parachutée ici, et cette famille-là est prête à l'accueillir, mais aussi avec beaucoup d'a priori.
Et de reproches, alors que ça ne lui appartient pas.
De reproches pour la mère, ça, mais exactement, ça appartient à une autre histoire que la sienne. Et en fait, Olga, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de devoir composer avec des histoires qui ne sont pas la sienne. Elle aimerait juste et se justifier de ces histoires-là, alors que qu'elle, elle voulait juste être gymnaste, quoi. Et en fait, l'histoire et l'histoire qui traverse sa ville à ce moment-là, et son histoire à elle familiale, n'arrête pas de la récupérer, n'arrête pas de lui redire qu'elle est inscrite dans un contexte plus large qu'elle-même.
Et de la remettre en question constamment.
Et moi, c'est... Enfin, ça, pour nous, pour Raphaël Desplechin et moi, ça a été un grand travail de rester dans un équilibre, de pas opposer en fait la gymnastique avec la révolution, ou la gymnastique avec une histoire plus longue. La gymnastique, c'est la passion de mon personnage, et il fallait la respecter à cet endroit-là, l'observer pour ce qu'elle est, avec toutes les ambiguïtés que ça comporte, et toute la tension que ça contient, mais aussi être à l'endroit de sa passion. Voilà.
C'est très réussi au niveau d'équilibre, en tout cas je l'ai vécu comme tel. J'étais impressionnée par toutes ces scènes des manifestants. Vous avez fait comment pour les choisir, pour les insérer? Enfin, il y a tout un équilibre, justement, j'imagine qu'il y a un grand travail en amont.
Oui, c'est des images que j'ai découvertes sur YouTube très vite dans le processus de recherche. Après, j'ai travaillé avec beaucoup d'interlocutrices, d'interlocuteurs ukrainiens qui m'ont renvoyé vers des images, qui m'ont renvoyé vers des militants qui ont fait la révolution. Et ce qui m'a tout de suite frappé avec ces images, c'est l'intensité, c'est la présence des corps dans ces images. C'est pas seulement la violence. Et je trouve qu'elles traduisent une urgence de filmer et un engagement qui est incroyable, en fait, qui est extrêmement impressionnant pour quelqu'un de jeune qui a envie de faire du cinéma, de voir qu'à un moment donné des gens ont décidé que dans ce moment hyper intense de violence il fallait filmer. C'est quelque chose qui m'émeut énormément, que je trouve très 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 beau, en fait. Et en même temps, c'est un contexte précis que le film devait restituer et respecter. Et à la fois, c'est peut-être les images les plus fantasmatiques du film. C'est celles qui, je pense, peuvent convoquer l'imaginaire du spectateur bien au-delà du contexte ukrainien, en fait. Donc on est dans ce jeu entre restituer le contexte le plus spécifique, être le plus spécifique sur le contexte possible, tout en sachant que ces images-là, elles vont appeler aussi à d'autres événements.
Elles ont une portée universelle.
Moi, j'ai pas de prétention à l'universel, mais je sais quand on parle de révolution et qu'on montre une comme Romaïdan et qu'on lui donne une représentation, elle n'arrête pas de faire écho à d'autres révolutions. Et ça, je pense que politiquement, c'est pas pour rien.
Et ce qui m'a marqué, bon, on les a vues ces scènes, comme vous dites, sur Internet, mais de les voir comme ça sur grand écran dans votre film, on prend conscience qu'il y a une symbiose, une fusion de ces manifestants.
Ben oui, et qui en même temps qui est une... oui et non, c'est-à-dire que forcément nous on voit ça, c'est aussi ce qui a produit que la révolution, malgré des centaines de morts, c'est comme ça que ça a terminé, ça s'est terminé de façon absolument dramatique. Mais la révolution a abouti. Yanukovych est parti. Et je ne sais plus ce que je disais.
Moi, je vous parlais de fusion, mais vous me dites oui et non.
Parce que c'est quand même un groupe très hétérogène de gens. Les gens n'étaient pas là pour les mêmes raisons. Et ils se sont mis d'accord pour être ensemble sur la même place un certain nombre de temps. Et ils ont fait front contre les Berkouts ensemble. Et moi, j'ai eu beaucoup de récits d'Ukrainiens qui me racontaient qu'ils se retrouvaient sur des barricades avec des gens avec qui, politiquement, ils seraient à l'opposé de l'échiquier politique, quoi. mais que en fait il fallait faire front à ce moment-là, quoi. Et ça, je trouve que ça et s'unir, et que ça c'était aussi parce qu'il y avait urgence, hein. Urgence vitale, hein, puisque ils sont allés au bout, quoi. Mais ça dit aussi que les gens le disent eux-mêmes, qu'ils étaient ensemble, unis, mais fait d'un groupe complètement hétérogène, quoi. Ouais.
Alors, protagoniste Olga, à l'écran, cette jeune fille, elle est fascinante. Vous l'avez trouvée comment, la perle rare ?
Ben, en fait, très tôt, je suis allé voir des gymnastes, je suis allé dans des compétitions internationales, je suis allé en Ukraine, je suis allé une quinzaine de fois en Ukraine, pendant à chaque fois une dizaine de jours pour faire des rencontres. Je suis allé très tôt, en fait, dans le processus d'écriture dans les centres olympiques pour rencontrer des athlètes. Et en fait, c'est la première fois que je suis allé au centre olympique de Kiev que j'ai vu Nastia. Je l'avais déjà vu au championnat européen de Berne en 2016. Mais la première fois que je vais au centre olympique, je la revois. Et en fait, c'est la seule qui se retournait pas, en fait. Tout le monde se retournait, ils étaient plutôt curieux et tout. On ne savait pas trop si on avait été annoncé ou pas, parce que quand même les gens avaient l'air curieux. Et Anastasia, elle s'en fichait complètement. Elle était dans son coin, elle était hyper enragée de ne pas réussir sa figure. Et elle était hyper énervée. Et en fait, ça m'a déjà touché, en fait, à ce moment-là. Je sais pas, je viens pas du tout du même monde. On n'a pas une rage, on n'a pas les mêmes raisons de la rage, quoi. Mais franchement, ça m'a touché, quoi. Et elle a une intensité avec tout, en fait. Il y a quelque chose qui m'accroche chez elle et que j'avais surtout pas envie de contrôler complètement. Donc, et comme c'était au début du processus d'écriture, c'était super parce que c'est devenu très clair très tôt que le dispositif du film, ça allait être d'organiser l'espace de liberté dans lequel elle allait pouvoir proposer des choses et donner aux personnages des couleurs plus vives, plus justes et parfois plus ambiguës que ce que moi j'avais imaginé. Et je suis content qu'elle ait donné ça. Elle a donné un personnage au film qui est bien plus fort.
Au-delà de vos espérances.
Bien au-delà. Ouais.
Mais Eli Grapp, vous parlez d'un autre monde, la musique, à l'instar aussi des tournois dans le sport. La musique, quand on est surtout soliste, par exemple, on veut réussir jusqu'à la perfection. C'est peut-être pas la même rage.
Je suis pas sûr de comprendre la question.
Bah, vous disiez que vous venez d'un autre monde,
ouais.
La musique.
Ouais.
Mais dans la musique, quand on est concertiste et soliste, surtout, on veut réussir à la perfection aussi quand on donne un concert, une prestation.
Ben oui, absolument.
C'est peut-être plus continu, mais il y a quand même une volonté de réussir.
Je pense que c'est très proche sur la discipline.
Mmh.
Moi, autour de moi, je faisais de la trompette classique. Donc comme le répertoire n'est pas hyper large, enfin est moins large que pour le violon par exemple, j'ai fait beaucoup de choses à côté, en fait. J'ai fait beaucoup de jazz, d'improvisation atonale, j'ai de recherche en fait aussi en parallèle de mes études. J'ai mon diplôme de conservatoire de trompette classique. Mais autour de moi, il y a des gens qui étaient plongés dans ce qu'ils faisaient. Mon frère faisait jusqu'à 8 heures de piano le week-end, quoi, par jour.
Famille musicien alors?
Non, juste mon frère et moi. Mes parents nous ont proposé ça justement parce que je l'avais pas fait. Et c'était une approche du sensible, je pense, qui était vraiment chouette. C'est une chance d'avoir fait ça. C'est conservatoire et discutable à plein d'endroits et l'élitisme en général, mais pas cracher dans la soupe, quoi. Il y a beaucoup de choses de la discipline que je peux avoir au travail et tout ça qui viennent de ce moment-là et de la curiosité aussi, en fait, de l'envie d'entendre des choses et moi j'ai eu envie de faire des films qui étaient musicaux, en fait, hein. La gymnastique, ça se passe de mots souvent, et du
c'est
coup
comme une
c'est
partition.
Voilà, ouais, c'est-à-dire c'est drôle, mais les sons de la gym, c'est vraiment comme une partition bruitiste, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça, un langage à part entière qui est que de la musique bruitiste. Et d'ailleurs, avec le musicien du film, on a dû vraiment travailler en jonction avec cette partition bruitiste qui existait déjà dans le son. Et que le son devait restituer. D'ailleurs, on avait un dispositif sonore particulier pour les scènes de gym. On était proche, mais aussi moins proche. et très à distance, tout ça en simultané, qui permet de donner au geste qu'on a, au geste que fait Olga, une résonance dans les espaces, et de donner vraiment une existence et une conséquence à ces gestes qui est sonore. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'écriture, l'étape de...
Ouais. Ben, j'ai écrit depuis le début jusqu'à la fin avec Raphaël Desplechin, que j'ai rencontré quand elle était intervenante à l'ECAL. Elle avait travaillé sur, sur le développement de mon court-métrage de diplôme. J'ai tout appris en fait avec Raphaël. J'ai aussi pris ça comme un apprentissage de ce que c'est que l'écriture. Et elle est d'une rigueur et d'une générosité à la fois qui est magnifique, quoi. Et elle a accueilli ce projet à l'endroit où elle allait et en me laissant les endroits que moi je devais porter aussi. Donc on s'est vraiment partagé aussi les choses. Moi j'allais en Ukraine, je ramenais énormément de documentation, j'écrivais beaucoup. Et après, avec Raphaël, on réécrivait. Et voilà, ça a été un apprentissage fabuleux, quoi. Je la remercie, voilà. Reconnaissance éternelle, Raphaël.
Alors, Élie, on parlait au début d'interview que vous êtes ici présent à la Semaine de la Critique. Quel sentiment d'avoir Olga dans la Semaine de la Critique à ce festival 2021?
Ben, je suis...
Fait, festival retour, après une année de disette culturelle.
Ben oui. Je suis hyper fier. Pour le film, mais aussi pour les interprètes et pour les gens de l'équipe, toutes les personnes de l'équipe en fait qui ont donné énormément pendant les 9 mois sur lesquels se sont étalés le tournage à cause de l'interruption du Covid et de toutes les incertitudes qu'il y a eu. En fait, cette sélection, c'est aussi une façon incroyable de les remercier, pour voilà tout ce qu'ils ont donné au film. Et puis voilà, je suis infiniment reconnaissant envers les programmatrices, les programmateurs de la semaine. C'est un accueil incroyable. Je sais que le film, quand il est là, il est choyé. Il est dans une sélection qui est assez voilà, c'est peu de films en compétition. Donc on sait qu'on est accompagné, qu'on a envie que le film soit vu ici. Donc voilà, je suis très très heureux et reconnaissant.
Félicitations en tout cas. J'aimerais quand même aborder quelques mots sur votre parcours. Vous avez mentionné que vous avez fait le Conservatoire National à Lyon, musique, trompette, et vous avez viré tout d'un coup vers le cinéma et l'ÉCAL à Lausanne. Pourquoi ce choix?
Ben, en fait, je savais que je voulais faire des films. Je le sais depuis que je vois des films. En fait, je pense à un moment donné, j'ai dû dire « bon, ben voilà, je vais faire des films en fait », mais j'étais enfant et en fait j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pris au sérieux et qui du coup comme ils viennent pas du tout du cinéma, j'ai des parents qui sont profs et du coup ils savaient que les outils qu'ils pouvaient me donner c'était de me faire plein de choses autour, de me faire de la musique, de me faire du théâtre et donc c'était assez logique après mon baccalauréat d'entrer dans une école. Et en fait l'ÉCAL c'est les Beaux-Arts avec une option cinéma. C'est une école publique, c'est une école qui est dans le système de Bologne, donc c'est reconnu dans le système européen. En fait ça me coûtait pas plus cher que d'aller faire une prépa à Paris ou ailleurs étant lyonnais. Et en fait, c'était assez logique pour moi de, dès que possible, faire plutôt une école d'art que d'entrer tout de suite dans un système qui me permettait de me poser des questions de création. Et je pensais, j'ai hésité à revenir en France et tout ça. Mais finalement, le projet s'est enchaîné très vite après mes études. Et donc, ça fait 10 ans que je suis en Suisse, dans le canton de Vaud. Et voilà, maintenant ma vie est là-bas.
Et c'est une ville cinématographique, Lausanne.
C'est une ville très cinématographique, c'est une sorte de labyrinthe. C'est tout en montée et en descente. Voilà, c'est ça. C'est une ville super intéressante avec une super cinémathèque. Et moi j'ai des gens qui m'ont porté là-bas. À l'ÉCAL, Lionel Bayer.
Alors j'allais le dire, rachetez les mots de la bouche.
Lionel. C'est mon parrain de cinéma, c'est mon daron, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier encore, quoi. Avec moi, il a été d'une générosité folle. Il a toujours été là pour me faire des retours. Donc voilà, j'ai rencontré des gens qui sont des gens qui suivent.
Des guides.
Des guides, ouais. Des gens qui donnent confiance. Des gens qui n'ont pas peur de dire que ce soit lui, mais que ce soit aussi mon producteur suisse, Jean-Marc Frolleux. Mm-hmm. Ou Stéphanie Chua, ma camarade réalisatrice, qui co-réalise avec Véronique Raymond des films magnifiques. Et qui a un petit rôle dans le film, Stéphanie, et qui font partie des gens qui, alors que j'avais 21 ans, m'ont dit, au lieu de me dire « tu vas voir, ça va être compliqué », m'ont dit « ouais, c'est possible en fait ».
Faut y croire.
Vas-y, et on va t'expliquer comment tu peux faire pour parler avec des producteurs, voilà. Et qui m'ont donné confiance, qui m'ont dit « le plus important, c'est de faire croire à tout le monde que t'y crois ». Même si tu as des doutes. Et donc voilà, c'est une parole que j'essaye de propager le plus possible dans les personnes qui sortent de l'école et qui ont envie de faire leur premier film. C'est bien sûr, c'est un chemin, mais plus ou moins long. Ça dépend vachement des projets. Et surtout, il faut faire croire à tout le monde qu'on y croit. Et on finit par y croire. Hein.
En tout cas, il y a quelqu'un qui a cru en vous, il me semble, parce que j'ai lu que vous avez coaché les acteurs du film Les Particules.
Ben oui, Blaise Harrison, ça a été quelqu'un d'hyper important pour moi.
Il a cru en vous.
Ben, en fait, c'est drôle cette relation parce que j'ai écrit une partie de mon mémoire de diplôme quand j'étais en bachelor à l'école, sur les films de Blaise, sur les documentaires de Blaise. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que j'ai eu un entretien avec lui. Puis après, je l'ai fait venir au Ciné-Club pour qu'il montre ces documentaires qui sont sublimes. Armand 15 ans l'été, l'harmonie, c'est des films hyper beaux. Et après, tout de suite après les cales, il m'a proposé de m'occuper du casting. Et on a eu une longue relation de travail de 2 ans et demi sur le film.
Les particules.
Et où j'ai appris énormément de choses. C'était ma première expérience de long métrage. Et c'est quelqu'un qui a cette inventivité incroyable et qui a une qualité qui est folle en fait, d'être exigeant, le plus exigeant possible à la mise en scène de ce qu'il regarde, tout en sachant que ce qu'il regarde c'est le réel et qu'il va devoir aussi lui laisser une place énorme. Donc c'est pas parce que les dispositifs sont souples et s'adaptent au réel que tu dois pas être hyper exigeant sur la forme de ce que tu fais. Et voilà. Et en fait, ouais. Ben lui aussi, c'est mon daron.
Ça fait beaucoup de darons.
Ben ouais.
Malheureusement, Élie, on m'a fait signe qu'on doit bientôt se quitter. Ouais. On peut parler projet déjà ? Ou c'est trop tôt ?
Oui, ben j'ai un projet pour la suite. J'ai commencé l'écriture avec Victor Gestin, qui est un auteur français. Et c'est un film qui sera dans un univers complètement différent d'Olga, à une autre époque. Ouais. Avec une autre forme aussi, dans une forme très différente. Et voilà, ça va être c'est un projet qui nous passionne déjà avec lui. Voilà, je suis content de l'avoir entamé et de m'y plonger bientôt. Ouais.
Merci Élie Grappe de nous avoir accordé du temps.
Merci.
Et bon succès.
Merci pour cet entretien.
Attends, je te fais une découverte.